Radio Scénique, Éric Dauthert, bonjour. Qu'est-ce qui peut réunir l'adaptation d'un dessin animé des années 80 et celle d'une tragédie shakespearienne? Qu'est-ce qui pourrait offrir des similitudes entre Maestro, le héros de Il était une fois, une série plutôt pédagogique, et Macbeth, le sanglant roi tragique? Eh bien ici, à Radio Scénique, on a trouvé. C'est l'image qui les réunit. D'un côté, il y a une comédie musicale du nom d'Il était une fois, tirée de la série du même nom. Elle part des images de dessins animés à succès des années 80, signé Albert Barillet. Hélène Saveuve et Arthur Junior en ont tiré un spectacle de qualité qui réjouit les jeunes spectateurs, mais aussi les plus âgés. C'est un spectacle joué, dansé et chanté, on a vraiment aimé. C'est Milena Sansonetti, l'une des interprètes de ce spectacle complet, qui vient nous en parler. De l'autre côté, on a le Moonstrom Théâtre et leur Macbeth. Les images, oui, les suscitent sur scène. Elles émergent, voire explosent du papier des lignes et des mots de Shakespeare. Louis Arène et Lionel Lingelser sont à la manœuvre. Ils adaptent, mettent en scène et jouent un Macbeth époustouflant au Théâtre du Rond-Point. Pour ce qui concerne les mots, nous avons invité Lucas Samin, qui a adapté Shakespeare pour le faire rentrer dans la philosophie de la troupe. Et côté image, c'est Juan Tarlet, le bouffon du roi dans Macbeth, que nous avons invité. On les retrouvera en deuxième partie de cette émission. Cher Pascal Dutertre, vous êtes notre conclusion, notre cerise sur le gâteau. Vous aussi, vous nous apportez des images.
Oui, celle du cannelé, du fameux cannelé de Bordeaux, ou plus exactement, des colonnes cannelées. On va en effet se rendre dans la ville du Grand Théâtre et je vous ferai une visite guidée virtuelle, bien sûr.
Pascal, c'est donc en fin d'émission que nous vous retrouverons. Vous avez le programme, éteignez les lumières, coupez vos portables. Voici la 22e édition de Radio Scénique.
Radio Scénique par Éric Dauthert. Le théâtre sur Aligre FM.
Milena Sansonetti, bonjour.
Bonjour.
Cette musique, elle vous évoque quelque chose?
Bien sûr, la toccata, c'est l'ouverture de notre spectacle à la Renaissance.
Alors votre spectacle, ça s'appelle Il était une fois, oui. Le spectacle. Hein.
Oui.
Parce qu'Il était une fois, il faut le rappeler, c'est une série de dessins animés signé Albert Barillet. C'est une série qui est née en 1978, qui a eu 182 épisodes.
Oui.
1978, c'était bien avant votre naissance. Vous aviez eu vent de cette série, ça vous disait quelque chose?
Ben oui, parce que j'ai des frères et sœurs plus âgés et qui regardaient Il était une fois la vie. Donc j'avais tout à fait connaissance de Maestro et de ses camarades d'aventure.
Alors, les camarades d'aventure, il y a notamment Psy que vous incarnez.
Tout à fait.
La seule fille de l'équipe.
La seule.
Alors, on peut rappeler ce que c'est que ce spectacle. Je disais en introduction que c'est une série à vocation pédagogique.
Oui.
Il y a eu plusieurs séries. Il était une fois la vie, il était une fois l'homme, il était une fois les Amériques, il était une fois les découvreurs.
Oui.
Et là, en quoi consiste le spectacle? Ah, parce que mettre en image sur scène... en 3D donc,
et oui,
avec des vrais humains en réalité, un dessin animé, c'est pas facile.
Eh ben non, c'est pas évident, mais je crois que c'est un pari que Arthur et Hélène ont très bien réussi. Parce
Arthur Junior et Hélène
Arthur
Barillet.
Arthur Junior et Hélène Barillet, effectivement, qui ont coécrit et qui ont fait la mise en scène. Évidemment, avec des moyens mis à disposition scéniques, avec des archétypes de personnages qui sont extrêmement clairs. Je pense que l'adaptation, elle se fait surtout, là en l'occurrence, on l'a réussi parce qu'on a un décor qui plonge vraiment dans l'univers. Et après, effectivement, avec ce pari de faire une comédie musicale, c'est-à-dire de chanter, d'interpréter physiquement et dans le jeu ces histoires qu'on a vues à la télé, qu'on nous raconte et qui permettent aux enfants un peu de voyager dans différents mondes. Le corps humain, aller en Amérique pour la première fois sur un bateau.
Il y avait peut-être une tentation, Hélène Barillet, en tant que veuve d'Albert Barillet, elle est détentrice des droits de cette série. Il y avait peut-être une tentation d'en faire un outil promotionnel, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est un objet complètement différent, ce spectacle.
Non, je crois qu'elle avait vraiment juste un désir de faire exister, de continuer à faire vivre effectivement ces personnages qu'une certaine génération connaît très bien, mais effectivement que des enfants encore aujourd'hui, parce que le dessin animé est toujours diffusé, connaissent aussi. Et puis il y a une nouvelle forme qui vient d'arriver en dessin animé qui est très récente, et je crois qu'elle avait juste très envie de les faire vivre encore une fois et de les faire vivre au théâtre qui est un art tout le monde ici affectionne, je crois, et qui est nécessaire, quoi, pour les enfants aussi.
Alors ça commence très fort, ça commence par Pierre qui est suspendu dans l'espace et qui est perdu. La chance, mais vous êtes très inquiet. Psy, elle le cherche, elle est un petit peu amoureuse de lui.
Elle est complètement amoureuse, c'est l'enjeu de mon spectacle, retrouver mon amoureux.
Il y a Maestro, le héros, sorte de prof avec de grandes antennes et dont la barbe recouvre tout le corps. Je vous avouerai que pour connaître la série, je me disais mais comment est-ce qu'ils vont arriver à figurer ce personnage plutôt velu, ouais. Capillairement intéressant, avec des petites antennes sur la tête.
Hein. Non, mais ça aussi, vrai défi que relève 100% Thomas Ronzo, qui interprète Maestro, vraiment très fort. Le costume, évidemment, fait beaucoup, il a été beaucoup cherché. C'est encore une fois des moyens qui sont mis à disposition pour vraiment recréer l'univers au maximum. Donc, on l'a cherché, ce costume, il en a essayé pas mal. Et voilà, je crois que ça fonctionne, on y croit.
Ça n'est rien moins que la musique de Michel Legrand,
oui.
C'est votre thème, le thème de Psy.
C'est sublime, Michel, il est tellement fort.
Parce que, il faut le dire, c'était une série de grande qualité, c'était un dessin animé de facture française, avec la musique de Michel Legrand, je crois qu'on peut qualifier de luxe absolu. Parlons de votre personnage Psy, quelle est-elle? On l'a dit, c'est une femme isolée dans un univers d'hommes dans lequel il y a le gros, il y a le teigneux, le nabo, le gros... Pierre, le gentil, et Maestro, l'omnisavant. Comment est-ce qu'elle arrive à trouver sa place, cette jeune psy?
Je crois qu'elle a ce côté féminin que moi j'aime bien interpréter sur scène, où c'est vraiment elle qui ressoude et qui fait avancer l'histoire par la quête de Pierre, dans le sens où elle est nécessaire déjà parce que les garçons finissent par vraiment s'enlacer quand il y en a trop, et aussi parce que... Non mais je crois qu'elle fait avancer l'histoire parce qu'elle est tout le temps proche de Maestro, elle pose des questions, elle fait avancer l'histoire aussi parce qu'elle est curieuse. Moi je prends beaucoup de plaisir à l'interpréter, à toujours chercher les petites nuances qu'elle peut avoir... avec les garçons, à les faire bouger, quoi.
C'est ce qui paraît évident en tant que spectateur. Hein. J'ai largement dépassé l'âge des jeunes spectateurs, mais on se fait prendre. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à y croire? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à s'adresser aussi bien aux enfants qui sont dans la salle et qui jouent complètement le jeu? Hein. C'est guignol, là. À un moment, vous avez, je ne sais plus quel est le personnage, qui est menacé par un autre, et on a des hurlements dans la salle dignes du guignol.
Les enfants, en plus, c'est le public le plus exigeant, donc quand ils s'ennuient, on le sait. Donc là, je crois que ce qui marche, c'est que les garçons sont très très forts pour mettre l'humour, que Arthur y met un point d'honneur aussi.
Arthur Junior, donc,
Arthur Junior, toujours, à nous faire travailler sur le rythme pour que ça s'épuise pas. Et la raison pour laquelle je pense que ça plaît aux enfants comme aux adultes, c'est qu'on y a quand même mis des références pour les adultes, pour qu'ils puissent s'y retrouver aussi.
Il y a beaucoup de clins d'œil.
Il y a énormément de clins d'œil. Il y a énormément de clins d'œil que les enfants, pour le coup, ne comprennent pas, mais qui sont, nous, des choses qu'on a dans l'inconscient collectif qui font que voilà, les enfants, comme les parents, passent un bon moment. C'est un peu le but.
Il y a une petite parenthèse éducative sur laquelle j'ai envie de revenir, sur la différence. Alors, je préviens nos auditeurs, ils savent à quel point on n'aime pas les donneurs de leçons ici.
Non, bien sûr,
mais c'est une petite parenthèse qui arrête l'action et où vous dites qu'est-ce que vous dites sur la différence?
Eh ben, c'est vrai qu'il y a une question à un moment sur le harcèlement dû aux différences des uns et des autres, la couleur de peau, le handicap, quelle que soit la forme qui fait qu'un humain peut être différent de nous. Et c'est un moment que je prends en charge avec Maestro et qui me tient à cœur parce que c'est un fléau dont on est au courant, qui existe dans les cours d'école. Et voilà, on ne s'étend pas là-dessus parce que ce n'est pas le but. Mais il y a un tout petit moment, effectivement.
Ça suspend l'action. Hein.
Ça suspend l'action, oui. C'est important de l'isoler quand même parce que on sait, en tout cas aujourd'hui, que ça existe. Et je pense que si... Parmi tous ces moments où on rigole et on apprend des choses, on peut quand même avoir cette petite partie où on met en garde, où on avertit. Ça peut être utile et c'est toujours un moment où les parents viennent nous dire merci. Après, moi, je reçois beaucoup de messages. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude, en tout cas, de le mettre au théâtre. Et je sais qu'Arthur, avait la volonté que ce ne soit pas un moment où on s'étende justement pour pas...
C'est très bref.
Ça dure vraiment une minute et c'est très bien comme ça, je crois.
Comment est-ce que vous avez travaillé? Vous chantez, vous dansez, comment s'est fait le travail? C'est très physique. Alors, je pense à vous et je pense au personnage entièrement couvert de poils qui est maestro et à la température qui doit régner dans son costume parce qu'il n'est pas le dernier. Ah, il a beau avoir combien? 600 ans?
Il a, plus.
Hein, plus que 600 ans, oui.
C'est plus. Hein.
Le personnage a 600 ans et il danse, il chante comme les autres sur scène. Vous, comment vous avez travaillé?
Bah, moi, j'avais la chance...
On reviendra sur le corps tout à l'heure. C'est ce qui est en commun avec le Moonstrom qui travaille énormément sur le corps.
La physicalité, hyper important sur scène. Mais moi, j'avais la chance d'avoir quand même fait de la danse et d'avoir passé un diplôme, Dieu m'en préserve. Et du coup, je n'étais pas non plus dépaysée. Ce qui était plus compliqué, c'est d'allier le chant, qui sont des disciplines que j'ai travaillées, mais jamais mettre tout ensemble. On a eu de l'aide, hein, évidemment. On a Zoé Bido à la chorégraphie qui a fait une école de comédie musicale. Il faut savoir que Thomas qui joue maestro, Nabo et Pierre sont des acteurs de comédie musicale. Ils ont fait de la comédie musicale en formation. Donc on a appris à allier les trois, à travailler. C'est une exigence la comédie musicale que je soupçonnais pas à ce niveau-là. Effectivement, c'est vraiment faut être en forme. On s'échauffe toujours avant. On travaille à réguler. On fait des balances son tout le temps. C'est exigeant. Voilà.
Et au niveau de l'histoire, il faut le dire, on commence dans l'espace, on termine... Alors, on ne termine pas vraiment avec les hommes de caverne, mais on passe par les hommes de caverne.
Oui, si.
On s'aperçoit que Christophe Colomb est un sale menteur.
C'est un menteur.
Absolu. Mais ça, on va réserver la surprise aux spectateurs. Et qu'est-ce qu'il y a encore comme moment historique un peu marquant?
Historique, il n'y en a pas. C'est surtout après une traversée sur les bateaux pirates... on a aussi un moment, on est dans le QG général, donc on passe un peu dans l'espace. Voilà, c'est vraiment juste traverser encore et encore les univers, tout ça avec la chorégraphie et le chant.
Dans le travail, alors, soit d'écriture, soit de mise en scène, on a une continuité, c'est-à-dire qu'on n'a pas un travail en séquence, ce qui est un peu une des maladies du théâtre contemporain, pas le Moonstrom. je vois qu'on me regarde avec sévérité du côté du Moonstrom théâtre. Il y a une action continue, sans interruption. Est-ce que c'était une volonté de la mise en scène? Ou alors, je ne sais pas comment vous avez travaillé avec...
Que c'était une volonté de la mise en scène. C'est vrai que Arthur Juniau déteste l'ennui et je le comprends. Enfin, il trouve ça positif à certains moments, mais il a vraiment besoin que les histoires avancent et je suis assez d'accord sur ça. En tout cas, quand c'est ponctué par de la chorégraphie et du chant, le texte reste important, mais il faut très vite qu'on puisse restimuler tout ça. Donc, effectivement, il a travaillé que sur des actions en permanence. Il y a des fois, ça se pose un peu plus et il y a des fois, ça repart encore plus fort. Mais il a une vraie, très bonne gestion du rythme et il nous a vraiment fait travailler comme ça. On avance dans l'histoire. Il faut toujours qu'on avance.
Avec tout ce que vous aviez à faire, est-ce que tous les comédiens, entre le chant, la danse et le jeu, est-ce que vous avez réussi à donner parfois votre avis sur la mise en scène et à apporter quelque chose, ou c'était plutôt du haut vers le bas, sans aucun jugement de valeur, évidemment.
Sans aucun jugement de valeur, pour parler de moi, je suis pure exécutrice, hein, vraiment comédienne. Je ne crée rien, j'adore qu'on me dise ce que je dois faire, donc j'ai rien foutu. Mais en revanche, je suis entourée de garçons qui sont très forts en improvisation, qui est une discipline, pareil, qui a de l'exigence et qui pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration parce que je n'en fais pas, et qui ont, eux, proposé énormément de choses à ce niveau-là. Et Arthur a pris parce qu'il a raison et qu'ils sont, très intelligents sur ça.
Alors, ne croyez pas du tout Milena Sansonetti quand elle vous dit qu'elle n'a rien foutu. Elle fait partie de la comédie musicale Il était une fois le spectacle. Un spectacle qu'on a vraiment aimé et qui est au Théâtre de la Renaissance. Milena Sansonetti, merci.
Merci à vous.
Radio Scénique par Éric Dauterre. Le théâtre sur Aligre FM.
Aligre FM et Radio Scénique qui reçoit aujourd'hui. Alors, on vient de parler de Il était une fois le spectacle et on va recevoir maintenant une partie de l'équipe du Moonstrom Théâtre pour Macbeth. Lucas Samin, bonjour.
Bonjour.
Vous avez traduit et adapté le Macbeth de Shakespeare pour en faire le Macbeth du Moonstrom Théâtre. On l'a entendu dans l'extrait de Macbeth que l'on vient d'entendre. L'élément déclencheur, c'est une prophétie.
Absolument. C'est une prophétie, mais c'est vrai qu'on les a un peu tordus quand même dans le spectacle et s'en est emparé à notre façon, on va dire.
La prophétie, elle dit un capitaine, le capitaine de l'armée du roi, tu seras général et tu seras roi.
Absolument.
En conséquence de quoi ? Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben,
beaucoup de choses.
Beaucoup de choses. Oui, c'est le tout début de l'histoire, mais disons que c'est ce qui vient planter la petite graine, on va dire, de l'envie absolue de pouvoir chez ce couple, puisqu'on a décidé d'en refaire aussi une entité qui fonctionne plutôt à deux qu'un seul personnage qui serait Macbeth et qui serait influencé par sa vilaine femme, Lady Macbeth. Voilà, on a essayé et en ce sens, on suit un peu plus finalement l'histoire de Shakespeare, on l'oublie un peu, mais en réalité, dans le détail, ils fonctionnent vraiment à deux. Et on a essayé un peu d'augmenter ça.
Ils sont également monstrueux l'un et l'autre.
Également, et ils s'entraînent là-dedans, et quand l'un devient plus peureux, l'autre le tire, et voilà. Retrouver un peu une complexité, et puis c'était aussi une manière de faire référence, j'en sais rien moi, à un couple comme le couple Ceausescu, tout ça, enfin voilà, un fonctionnement à deux têtes plutôt.
Un couple diabolique.
Ouais.
On va reparler de la manière dont vous suscitez les images. Erwan Tarlet, bonjour.
Bonjour.
Vous venez du cirque en partie, vous êtes nouvellement intégré au Moonstrom Théâtre, la troupe qui présente ce Macbeth, avec un K, au théâtre du Rond-Point. Et vous êtes le bouffon du roi Macbeth, un sinistre bouffon à l'allure étrange.
Effectivement, je joue le bouffon. Donc, ce personnage, il n'existe pas dans la pièce à la base, mais on est parti à la base du portier et on a étoffé ce rôle pour faire ce qu'il est devenu au final.
C'est aussi le bras armé de Macbeth qui va tuer les enfants putatifs du roi, parce que c'est bien beau de tuer le roi, mais il faut tuer sa descendance pour être vraiment roi complètement. Et vous œuvrez ?
Oui, en même temps, il œuvre au service du roi, il a sa propre volonté qui n'est pas non plus la sienne puisqu'il il tue en fonction d'une pièce et du sort. Et à la fin, il décide par lui-même, sans cette pièce, de tuer le roi.
Des traductions en français, il y en a eu de nombreuses, je crois une vingtaine. Mais au-delà de la traduction, c'est une adaptation à laquelle vous avez procédé. Une adaptation au style Moonstrom Théâtre. C'est quoi le style Moonstrom Théâtre ?
Oh là, vaste question. Bah, c'est sans doute un peu... Je dirais que c'est quelque chose qui va dans les extrêmes, quoi. À la fois du plus grotesque et trivial, à une certaine volonté de rendre les choses très extrêmes, que ce soit dans la beauté ou dans l'horreur, de l'autre côté du spectre, on va dire. Mais voilà, c'est cette volonté de tirer un peu tous les fils et de les emmener le plus loin possible.
Justement, on a l'impression que vous prenez une ligne de Shakespeare, que vous la tirez, vous la tirez, vous la tirez. Et comme vous la tirez, elle saigne beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de sang dans ce spectacle. On va rassurer les spectateurs, on voit bien que c'est du faux sang, on est dans une espèce de gigantesque théâtre grotesque. Hein.
Ah oui, oui, absolument, grotesque et dégoulinant et excessif. Et voilà, mais bon, c'est aussi... Shakespeare veut ça et ça s'adapte parfaitement à Moonsroom d'une certaine manière, même si on pousse les lignes. C'était la matière parfaite pour se lancer dans ce genre de défi, quoi.
Alors, je vais citer un des textes du plaidoyer pour ce spectacle. Le texte n'est que l'une des facettes de l'objet scénique, les interventions visuelles et plastiques, la physicalité des actrices ou des acteurs, l'univers sonore sont tout aussi importants dans la réception du théâtre. C'est le moyen de reparler avec vous, Erwan Tarlet. Mm-hmm. Le corps dans le cirque, hein, d'où vous venez, c'est important. Votre corps, vous l'utilisez, vous faites des cabrioles, vous l'exhibez aussi de manière provocante. Vous êtes tout sauf un clown drôle. Vous êtes un clown inquiétant. Un bouffon inquiétant.
Oui, qu'est-ce que dire ? C'est pas forcément... Oui, parce qu'il y a du coup, on a essayé de travailler sur l'étrangeté de ce... Déjà, le masque apporte de toute façon une étrangeté.
Oui, précisons-le, c'est très important ce que vous dites. Tous les visages sont revêtus de masques de façon à décaler le physique et à voir qu'on est en face de monstres, j'imagine.
Et ça permet du coup un espace de projection assez neutre, hormis peut-être pour ce fou qui a ses chaussettes et ce masque blanc qui fait référence au clown blanc. Et forcément, du coup, de rajouter le masque plus ce double masque blanc, ça rajoute une étrangeté et qui on donne du coup en plus de ce masque des temps d'arrêt face au public qui rajoute encore plus à cette étrangeté et des temps plus longs de réaction à ce personnage-là. Et comme vous le disiez, du coup, dans la compagnie, on a tous une physicalité qu'on utilise et on est plusieurs à s'entraîner, même physiquement, à se préparer pour ce spectacle-là. On fait tous des temps d'échauffement, de yoga assez importants avant le spectacle. Et donc, ouais, on est une compagnie qui a une physicalité plutôt exigeante.
Lucas Samin, vous avez coécrit cette adaptation et la traduction. Il y a un apport dans le travail du Monstrum Théâtre, il y a un apport important des comédiens.
Ah oui, oui, complètement.
Y compris dans l'écriture.
Oui, alors c'est vrai qu'on a fait une partie du travail de notre côté, Louis, Arène et moi, sur le texte. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on a essayées avec les comédiens. Ils ont fait des impros, on est parti de ça. Mais là, comment dire ça ? Je pense aussi que beaucoup de nos propositions, même celles qu'on a pu avoir de notre côté, ne sont possibles que parce que c'est le Moonstrum. Ça, c'est une dimension particulière de l'écriture, mais c'est comme si tout devenait possible aussi avec ces comédiens-là et cette esthétique-là. Et c'est très important parce que ça rend super libre dans l'écriture. On peut imaginer des choses complètement folles. Enfin, et d'ailleurs, c'était, je pense, ce qu'il y a de plus intéressant dans le travail avec Louis Arène et Lionel Ingelser, c'est ça. C'est ce truc de se dire, il n'y a aucune limite. Enfin... On se dit qu'un personnage va tomber des cintres comme une espèce d'araignée gluante pour s'emparer de quelqu'un. Et quand on en parle la première fois, on se dit « mais ça n'arrivera jamais ». Bon, ok, on en parle tout de suite, c'est le premier jour, tout ça. Et puis, 2 ans plus tard, ben, c'est ce qui se passe, quoi. Ça arrive pour de vrai, l'image existe. Et ça, voilà, ça c'est quand même... ça rend très libre dans l'écriture et c'est parce que c'est eux.
Erwan Tarlet, oui, pardon.
Ce qu'il y a de beau, en fait, ce que je trouve aussi au Monstrum, c'est qu'au-delà du fait que ce soit Louis qui mette en scène... c'est qu'il écoute toutes les idées de ses interprètes et que tout le monde a son mot à dire, que ce soit dans l'équipe technique ou de l'équipe au plateau, tout le monde peut apporter son idée, elle sera écoutée pleinement et voire choisie pour la mise en scène.
Je crois que ça fait 3 ans que vous êtes dans la troupe à peu près.
C'est ça, je suis arrivé sur Zypher Z avant, ça fait 5 ans.
Qu'est-ce qui vous a séduit dans la démarche et en quoi la démarche du Moonstrum Théâtre est différente pour le comédien circassien que vous êtes, hein?
Donc moi je me suis formé au CNAC, je viens complètement du cycle, du cirque à la base.
Du cirque, oui.
Ouais, une certaine nationale des arts du cirque. Et donc j'avais une appétence et une envie, un attrait pour le théâtre, mais je n'avais pas du tout été formé à ça. Et donc c'est le Monstrum, et plus particulièrement du coup, chacune des comédiennes, mais plus particulièrement Alex et Louis qui m'ont formé à ça. Et,
Alors pourquoi le Monstrum quand vous avez...
Pourquoi le Monstrum? Alors moi, je connaissais pas du tout le Monstrum, en fait. J'ai pas du tout une culture du spectacle et j'ai encore du mal à prendre le pas d'avoir cette habitude d'aller voir du spectacle. Mais j'avais fait une sortie d'école dans laquelle je mélangeais de l'art plastique, du théâtre et du cirque. Et eux ont vu cette sortie en vidéo. Ils m'ont appelé. Moi, j'ai regardé leur travail. Et donc, ça a été une révélation. Et donc, j'ai été passer l'audition avec eux et j'étais ravi. Et pourquoi ce type de travail m'attrait? C'est parce que le cirque ne m'intéresse que très peu, au-delà de, pour moi, mon corps, mes sensations. Mais à voir, souvent, ça m'intéresse que très peu. Et là, j'adore le Monstrum parce qu'il n'y a aucun médium qui est utilisé gratuitement. Et chaque outil, que ce soit plastique, physique, cirque, chant, danse, tout est mis au service de la dramaturgie et s'intègre complètement sans aucune gratuité ni démonstration juste esthétique. C'est vraiment complètement au service de la dramaturgie, c'est ça qui me plaît.
Alors ce Macbeth, il agrège un nombre de talents invraisemblables. On a parlé des masques, on peut parler du jeu, on l'a parlé, l'écriture Lucas Samain, mais les éclairages, l'ambiance sonore, on en a entendu un petit extrait tout à l'heure, ça contribue à mettre le spectateur dans une sorte de bain spectaculaire dans lequel il se laisse porter.
Ben oui, complètement. C'est vrai que c'est un énorme travail. Il y a aussi le travail du plateau qui est colossal parce que c'est un nombre invraisemblable de changements de costumes, de changements de décors. Il y a de la fumée, un nombre colossal aussi d'objets. Enfin, je veux dire, c'est quand même... on est vraiment dans l'art théâtral, quoi, dans ce qui peut se... Enfin, tous les métiers du théâtre sont représentés, j'ai envie de dire, ou presque. Et c'est vrai que ça, c'est assez magique, quoi. Et oui.
Radio Scénique par Éric Dautaire. Le théâtre sur Aligre FM.
Radio Scénique qui parle aujourd'hui des images sur scène. Et pour en parler, on reçoit une partie de l'équipe de Macbeth qui se joue actuellement au théâtre du Rond-Point.
Tu sais, Macbeth, je ne t'en veux pas. Moi aussi, j'ai quelques cadavres sous la couronne. Mais un conseil de roi à roi... Tue-les tous et fais le tri après.
song, the song yearned to be sung. It was a spinning song about the king of rock and roll.
Pendant ce temps-là, nos deux invités chantent. Lucas Sama et Erwan Tarlet. Vous êtes respectivement traducteur et adaptateur de Macbeth, de Macbeth avec un C devient Macbeth avec un K. Et Erwan Tarlet, vous êtes le fou inquiétant du roi dans ce même spectacle. On vient d'entendre là Louis Arène qui joue Macbeth, Delphine Cotu qui joue Duncan, le roi mort. Le fantôme du roi et François Pro, Macduff, hein, le fidèle Macduff, fidèle à son roi disparu, il apparaît sous forme de fantôme à Macbeth. Mais c'est un vrai fantôme. Hein.
Ah, c'est un vrai fantôme, oui. Alors qu'il n'existe pas dans la pièce, hein, qu'on a rajouté, parce qu'on s'est dit, puisqu'il y a des fantômes, autant mettre plus.
On entend l'introduction de l'humour. Le roi, je ne sais plus exactement quelle expression il doit employer, parce que votre texte, il oscille entre de la citation pure de Shakespeare et un texte qu'on va qualifier de plus trivial et de plus quotidien.
Oui, complètement. Et puis, voilà, c'est vrai que ça nous amusait que le roi... En fait, ça nous amusait qu'on ait oublié les prophéties dans Macbeth, que ce soit la répétition d'un éternel mythe comme ça, et puis que... Au bout de 4000 ans, en fait, les gens savent même plus ce qu'ils jouent dans cette espèce de grand recommencement. Et du coup, ils se trompent, ils disent des mauvaises choses.
Le fantôme dans Macbeth, il dit « Sois sanguinaire, intrépide et décidé. Ris-toi dédaigneusement du pouvoir de l'homme. Nul homme né d'une femme ne peut nuire à Macbeth. » Et vous l'avez transformé en « Tu l'es, tu l'es tous.
» Oui, et puis surtout, il essaye de dire cette phrase et puis il s'en souvient plus, quoi. Parce que, il a le cerveau bouffé par les vers. Enfin, c'est un fantôme, après tout. Le pauvre, il a le droit d'oublier aussi.
Parlons un peu des images, hein, parce que c'est le thème de notre émission. Erwan Tarlet, le fou que vous jouez, il m'a fait, en dehors du fait de... Il est flippant, du fait de le trouver flippant. Il fait franchement penser à des clowns grimaçants du Ça de Stephen King adapté au cinéma.
J'ai pas du tout regardé ce film-là, je regarde aucun film d'horreur, je suis désolé. Je savais pas.
Alors une autre référence, on a l'impression de voir aussi un petit bout de Matrix dans ce corps nu de Macbeth qui est issu d'une substance gluante. Lucas Sama, c'est quelque chose qui vous parle ou c'est inconscient?
Non, je pense que c'est Matrix, c'est une des grandes références du Monstrum. En tout cas, c'est une des grandes références de Louis Arène et Lionel Ingelser. Non, c'est complètement là. Parmi bien d'autres choses, mais oui, absolument, Matrix est essentiel. Matrix est un film essentiel.
Et le roi, c'est un grotesque pantin au ventre proéminent. Il fait penser au Père Ubu qui a pu être adapté à la télévision il y a très très longtemps par Jean-Christophe Averty. L'obsession du Monstrum, dans ce que dit Louis Arène, c'est les monstres, la métamorphose, les mondes qui s'effondrent et ceux qui naissent. C'est ce qui se passe sur scène?
Oui, je crois. Et puis c'est vrai qu'on... On a tenté de faire de chacun de ces personnages un monstre à un endroit. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un pour acheter l'autre. Macbeth, c'est une pièce qui a des moments de génie absolu. Enfin, je parle du test de Shakespeare, évidemment. Des monologues sublimes et tout ça. Mais c'est aussi une pièce qui s'inscrit dans un contexte de représentation particulier, qui défend un certain type de pouvoir et de royauté. Ça ne nous intéressait plus trop aujourd'hui. Évidemment, c'est une pièce qui se jouait devant le roi à l'époque. Il faut en avoir conscience. Donc du coup, elle légitime le pouvoir en place quand elle se joue, parce que Shakespeare est obligé de le faire. Et voilà. Et nous, on n'avait pas envie d'un bon roi assassiné et d'un retour du bien à la fin de cette pièce, une fois que le méchant est assassiné. On voulait quelque chose qui puisse être plus complexe. Enfin, d'où la volonté de faire naître des monstres partout, même chez des personnages qui ne sont pas monstrueux, qui sont plutôt des représentants du bien, s'il fallait être un peu cliché, dans la pièce. Donc que ce soit... Malcolm, Macduff, évidemment le roi Duncan, voilà, c'est des personnages qui sont tous traversés par des choses assez sombres et complexes et torturées.
Il n'y a pas un seul avec qui on aura envie de déjeuner.
Non, pas vraiment, non.
Par rapport à tout, on a parlé tout à l'heure de l'aspect technique, il y a un nombre d'effets à la minute qui est hallucinant. Et Erwan Tarlet, comment est-ce qu'on arrive à inscrire son jeu et à réussir à proposer une fraîcheur de jeu et à être... focalisé dans son jeu avec toutes ses contraintes techniques, hein, parce que les placements sont au millimètre près, parce que vous avez des éclairages qui sont conçus comme des pinceaux de lumière, vous avez des choses qui descendent du plafond, vous avez des choses gluantes, vous avez... Oui, c'est à peu près ça qu'on peut promettre aux spectateurs, donc Erwan.
C'est vrai qu'on a une grosse partition qu'on met, je dirais, plusieurs villes à intégrer pour pouvoir ensuite lâcher ces choses-là. Et en fait, j'ai l'impression que paradoxalement, moi, toutes ces contraintes techniques m'obligent aussi à être dans un certain présent. Enfin, plus je vais avoir de la matière sur moi et quelque chose qui va m'alourdir ou qui va impacter mon corps, et moins j'ai ça à jouer, et plus je suis obligé d'être avec ce qui compose mon corps et le moment présent de la matière ou de ce qui va contraindre.
Parce qu'en même temps, vous êtes tous et toutes sur un jeu hyper expressionniste. On n'est pas dans la demi-mesure, on est là dans le grotesque. Les personnages sont grotesques, ce sont des vilains au sens médiéval du terme. Et ce sont des personnages qui sont mauvais, foncièrement mauvais.
Et en même temps, au-delà du grotesque, Louis nous demande beaucoup de trouver cette sincérité tout le temps dans ce grotesque et dans ces grands écarts qu'on doit avoir entre un peu du profane et du sacré, et de mélanger, avoir cette, donc comment trouver à chaque fois on a mis plusieurs temps aussi en fonction des personnages, on a mis plusieurs villes à trouver à cette sincérité dans ce grotesque-là.
Oui, c'est ce que j'évoquais en parlant de fraîcheur de jeu, c'est-à-dire que vous êtes dans le texte existe, et on n'est pas écrasé par la machinerie. À l'issue du spectacle, on se dit, mais j'aurais pu être hypnotisé par l'aspect technique, mais je garde ma conscience de la beauté du texte et de la beauté de l'action. C'est quelque chose, Lucas Samin, qui a été votre préoccupation permanente avec Louis Arène, d'équilibrer le texte et l'aspect visuel, de façon à ne pas écraser l'action avec un dispositif technique.
Je ne sais pas si ça a été une préoccupation aussi consciente, mais en tout cas, il y avait cette double envie, on va dire, chez Louis et chez Lionel, de se confronter à un texte exigeant, qui était celui de Shakespeare, même si on n'en a gardé que des bribes, etc., et que même dans les parties traduites, on va dire, c'est une traduction hyper libre, et vraiment, on s'est tout permis. Mais ceci dit, oui, il y avait quand même cette envie qui pouvait être un peu, d'ailleurs, déstabilisante, je pense, pour les gens qui connaissent le Moonstrom, de les voir se confronter à Macbeth, et on a changé des milliards de choses, mais on a décidé aussi de garder la trame. On voulait qu'on puisse reconnaître Macbeth bien, enfin, même si on prenait toutes les libertés du monde.
On perd jamais le spectateur, on lui raconte une histoire.
Oui. Oui, voilà, parce qu'on aurait pu prendre ça comme le point de départ d'une grande variation qui aille complètement ailleurs, comme ça peut arriver parfois, et c'est très bien. Mais c'est vrai que, oui, il y avait cette envie de, à la fois, l'amener dans le monde du Moonstrom, mais aussi d'aller dans le monde de Shakespeare d'une certaine manière. Enfin...
Alors, le monde du Moonstrom, c'est aussi un engagement. Hein. Je lis encore le plaidoyer de Louis Arène. Les membres du Moonstrom prennent très au sérieux leur rôle d'artiste dans cette société en mutation, en refusant de se faire happer par l'angoisse grandissante qui ronge notre condition humaine. Et ils parlent de raviver ce feu. Erwan Tarlès, c'est quelque chose qui vous a séduit en rentrant dans le Moonstrom, le fait de rallumer ce feu, de rallumer cette joie du spectacle dans un monde bousculé.
J'ai l'impression qu'il y a aussi à l'intérieur du Moonstrom beaucoup de gens qui sont forcément, comme beaucoup de monde aujourd'hui, traversés par ce qui se passe dans le monde. Et ça peut paraître pour des grands mots, mais en tout cas, on essaye de travailler de ce feu avec une grande joie. Et depuis que moi je suis rentré au Moonstrom, il y a quasiment jamais eu d'heures et de conflits. Et le peu de fois où il y a pu avoir des mots un peu plus haut que les autres, on s'est tout de suite réunis pour mettre les choses à plat et pour continuer à travailler dans la joie et dans la plus grande joie possible, parce qu'on a conscience que même si ça ne fait pas avancer grand chose, on essaye de se dire que ça peut un tout petit peu, que notre joie et le grand sérieux qu'on met à appliquer sur scène peut apporter un petit peu de joie et un petit peu de mouvement dans les gens qui nous regardent.
Le Moonstrom, c'est un collectif? Pas tout à fait, il y a deux têtes, c'est une compagnie.
C'est une compagnie, mais comme je vous ai dit, on s'écoute tous les uns les autres, et les personnes qui, donc Louis et Lionel, écoutent toutes les idées et reçoivent toutes les idées sans hiérarchie.
Parlons de l'accueil du public qui est assez incroyable. Le soir de la première, il y avait une salle qui était beaucoup composée de jeunes gens, ce qui est très agréable à voir au théâtre. Et il y a eu un enthousiasme absolu de la part de l'intégralité du public. Qu'est-ce que ça vient titiller chez les spectateurs et chez les jeunes spectateurs particulièrement, Lucas Samin ?
Eh bien, vaste question, mais je pense que, le disait un peu Erwan, il y a un rapport à la joie qui se joue là-dedans. Et je pense que, oui, il y a un truc un peu cathartique avec le Moonstroom et voilà, mais qui se passe dans tous les sens. C'est-à-dire que c'est aussi bien dans le rire que dans, je ne sais pas, le côté effrayant ou impressionnant de certaines images.
Je crois que ce qui peut plaire, en tout cas moi ce qui me plaît quand je vais voir une pièce, c'est quand il y a, peu importe que ce soit bien ou pas bien, qu'il y a un engagement physique et une prise de risque, et j'ai l'impression que c'est ce qu'on essaye. En tout cas je crois que c'est ça que les jeunes voient, c'est qu'ils, quand on est en école, en tout cas on a envie de se servir, j'ai l'impression que l'appétence qu'ils ont en nous voyant, c'est qu'ils ont eux aussi envie de se servir de leur corps dans les pièces qu'ils vont peut-être faire après, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en école de théâtre qui nous regardent, et j'ai l'impression que c'est ça qui les met en émoi, ça leur donne envie de s'amuser avec nous et de aussi mettre les mains dans la matière et de s'engager physiquement, concrètement, en plein de sueur et de sang au service d'une histoire. Et je crois que c'est peut-être un peu ça qui...
Et le simple spectateur que nous sommes, que je suis, il vous délègue cette espèce d'énergie, il vous délègue cette folie aussi. Vous parliez tout à l'heure, Lucas Samin, d'une fonction cathartique. Vous êtes là sur le plateau à faire des choses invraisemblables. On termine avec le plateau entièrement gluant de cette espèce de sang. On ne va pas dire quelle est la matière, mais c'est une espèce de sang qui colle au corps, oui. Comme le crime peut coller au corps de Macbeth. On n'est plus dans la métaphore, on est dans l'illustration visuelle en permanence.
Oui, c'est vrai. Et à la fois, c'est tellement grotesque que ça amène ailleurs. C'est-à-dire que c'est évidemment une esthétique qui n'est pas du tout réaliste.
C'est important de ne pas faire peur au spectateur aussi.
Et puis ça peut être chouette de lui faire peur aussi. Moi, j'adore les films d'horreur, par exemple, contrairement à Erwan, ce qu'il disait tout à l'heure. Mais ça peut être agréable aussi d'avoir peur dans le contrôle, en tout cas, d'une salle de théâtre. Pourquoi pas ? On sait qu'il ne peut rien nous arriver pour de vrai, mais ce que je trouve formidable aussi avec le travail du Moonstroom, c'est cette capacité de ce que disait Erwan quand il parle d'engagement, c'est d'être aussi sérieux pour faire des choses aussi débiles, parce qu'on fait des choses, et j'emploie le mot débile vraiment de façon tout à fait
positive
et puis assumée, c'est-à-dire qu'il y a une envie aussi à certains moments de faire n'importe quoi. Alors après, le Moonstroom, c'est pas du tout n'importe quoi, c'est-à-dire que c'est une espèce d'horlogerie hyper réglée, etc. Mais avec quand même pour produire des choses vraiment parfois presque stupides et de le faire avec autant de sérieux, et quelque chose d'hyper réjouissant là-dedans.
Si on parle de votre travail, enfin, du travail du Moonstroom comme un travail de décalage permanent, décalage de l'action, décalage également des personnes, hein. Le roi est joué par une comédienne, Lady Macbeth est joué par un comédien. Est-ce que ce ne serait pas une illustration de ce que vous êtes, c'est dire des choses en décalant en permanence le propos, plus grotesque que ça ne devrait être, plus sanglant que ne l'a écrit Macbeth? Erwan Tarlet ou Lucas Samin, comme vous voulez, la parole là, Lucas Samin.
Non, oui, je pense après sur cette question de la répartition des genrés. C'est vraiment des
au-delà
grands...
de ça, au-delà de la répartition genrée, il y a un décalage dans le propos. On a
oui,
tout
dans
est
le
dit
propos
avec outrance,
et dans le corps, ne serait-ce que par le masque. Enfin, je veux dire, tout est légèrement à côté, tout est un peu plus bizarre, tout est un peu plus quelque chose de toute façon, un peu plus grotesque, un peu plus sordide, un peu plus dégoûtant. Souvent, c'est beaucoup plus, mais c'est vrai que c'est un art du pas de côté aussi. Et je pense que c'est ça qui intrigue, c'est ça qui réveille aussi le spectateur et nous d'ailleurs aussi pendant qu'on travaille, quoi. C'est de se dire il faut garder ce pas de côté et cette étrangeté, ce rapport à l'étrange. Je pense aussi que c'est un endroit fondamental du travail du Moonstroom dans tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Il y a toujours ce pas de côté, cette bizarrerie, ce rapport à quelque chose qui est toujours pas complètement normal, voire franchement bizarroïde.
On aimerait bien suggérer aux auditeurs d'aller voir le spectacle. Il est complet. On va leur suggérer d'essayer de s'inscrire sur les listes d'attente, de se présenter au théâtre avec un peu d'avance peut-être. Auront-ils la possibilité de bénéficier de sièges non occupés? Lucas Sama, Erwan Tarlet, merci.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
That make you silent now. Your eyes are rolling down. The secrets that I found. The secrets that I found.
Sur Aligre FM, c'est Radio Scénique. On parle aujourd'hui de l'image sur scène. Et c'est l'heure de retrouver la chronique de Pascal Dutertre. Pascal, nous progressons dans notre histoire du théâtre. Nous avons parlé précédemment des salles à l'italienne et du contrôle exercé par le pouvoir. Aujourd'hui, on va faire le portrait d'un édifice en particulier, le Grand Théâtre de Bordeaux, qui constitue un modèle du genre.
Oui, en effet, Eric, le Grand Théâtre de Bordeaux porte bien son adjectif. Il est tout à fait monumental. Il a été inauguré le 7 avril 1780 avec une représentation de la pièce Athalie, tragédie de Jean Racine, écrite à la fin du XVIIe siècle. Suite à l'incendie qui, en 1755, avait détruit le précédent théâtre, une société d'actionnaires avait été montée pour lancer la construction d'une nouvelle salle sous l'impulsion du maréchal de Richelieu. Celui-ci, petit-neveu du cardinal du même nom, avait été nommé gouverneur de la Guyenne l'année même de l'incendie. Il réussit à imposer l'architecte Victor Louis, qui avait travaillé pour lui à Paris et qui se trouve être lui aussi franc-maçon. D'ailleurs, les grands négociants sollicités pour financer l'ouvrage étaient pour la plupart francs-maçons, certains affiliés à la loge de l'Amitié fondée à Bordeaux en 1746, ce qui n'empêchait pas certains d'entre eux de pratiquer le commerce triangulaire. Rappelons que Bordeaux était un des principaux ports négriers à l'époque, et même si cette activité ne représentait qu'un faible pourcentage de la richesse commerciale de la ville, c'est environ 150 000 esclaves qui ont été traités entre eux. 1672 et 1837 par certains armateurs bordelais. En tout cas, la ville était riche et voulait se doter d'un édifice prestigieux.
Alors, il se trouve où ce théâtre exactement?
Eh bien, dans le centre-ville, évidemment, à la charnière du quartier ancien et de l'urbanisation opérée au XVIIIe siècle pour faire de Bordeaux une cité digne du siècle des Lumières. Jacques-Ange Gabriel avait dessiné en 1730 la place Royale devenue place de la Bourse, qui, avec son plan en demi-octogone, inspiré de la place Vendôme, ouvre la ville vers le fleuve. D'un côté, les restes de la ville médiévale avec ses petites rues sinueuses, de l'autre, le plan en damier et ses larges avenues. C'est dans la perspective de l'une d'elles, les allées de Tourny, que la façade du nouveau théâtre apparaît, en biais, car elle est en fait alignée sur la place de la Comédie, elle-même prolongement du cours du 30 juillet. L'édifice en plan a la forme d'un rectangle de 47 mètres par 88 mètres. La construction occupe un terrain où se trouvait auparavant le château Trompette et encore avant un forum gallo-romain. Le sol est plein de vases et il nécessita la mise en œuvre de 240 pieux pour solidifier ses fondations.
Je dormais tranquille, y avait pas de métro, une vie facile, c'était à Bordeaux.
À quoi ressemble ce théâtre qui aurait inspiré Charles Garnier pour concevoir l'Opéra de Paris presque un siècle plus tard?
On pourrait dire que, pour simplifier, qu'il s'agit d'une grosse boîte, un parallélépipède rectangle plutôt austère, dont un des côtés est doté d'un péristyle à l'antique. Lorsque Victor Louis arrive à Bordeaux, nous sommes en 1773, un an avant le début du règne de Louis XVI. Dans l'histoire des styles, c'est la période du retour à l'antique, dont le Panthéon à Paris, dessiné par Soufflot, est la meilleure illustration. Ce que l'on appelle aussi le néoclassicisme se traduit essentiellement par une architecture sobre, voire rigide, où la colonne règne. Le péristyle de Bordeaux est en effet constitué de 12 colonnes cannelées au chapiteau corinthien, couronnée par une puissante architrave, elle-même surmontée d'une balustrade ornée de 12 statues qui représentent les muses grecques et romaines, le tout construit avec la belle pierre blonde de Saint-Macaire. Parmi ces muses, il y a Euterpe, la muse de la musique, Terpsichore, la muse de la danse, Melpomène, muse de la tragédie, et Thalie, la muse de la comédie.
Ça ne ressemble pas vraiment à l'Opéra Garnier de Paris. Alors pourquoi faites-vous cette référence?
C'est vrai que l'Opéra de Paris n'a pas la sobriété du néoclassicisme de Victor Louis, mais c'est surtout l'intérieur de l'édifice bordelais qui a inspiré Garnier. Car ce qui fait la nouveauté et la grandeur du théâtre de Bordeaux, c'est bien le hall et son magnifique escalier. Celui-ci se déploie en forme de Y, avec une première volée droite et deux volées latérales et symétriques qui permettent de joindre le foyer et les loges. Le hall est très spacieux, il est éclairé par une coupole et un ensemble de lanternons qui diffusent la lumière naturelle. Mais c'est aussi la salle luxueusement décorée qui pouvait accueillir 1700 spectateurs à l'époque et son dôme peint. La fresque œuvre de Jean-Baptiste Robin constituait un hommage aux artisans ayant travaillé à la construction de l'édifice et un hommage à la ville représentée par une femme surmontée du chiffre de Bordeaux avec à ses pieds les richesses de la cité, le commerce maritime, le vin et quelques esclaves.
Fin de ce numéro 22 de Radio Scénique, votre magazine de la création théâtrale sur Aligre FM. On vous a aujourd'hui parlé de deux spectacles qu'on a vraiment aimés. Ils ont en commun de venir de l'image ou d'en créer. Merci donc à Milena Sansonetti. Elle incarne Psy dans Il était une fois, le spectacle musical tiré de la série du même nom. C'est un spectacle signé Hélène Barillet et Arthur Junior et c'est au Théâtre de la Renaissance. Allez-y tout seul ou allez-y en famille, vous aimerez tout autant. Au rond-point, il y a Macbeth avec un cast, un énorme coup de cœur visuel et textuel. C'est signé Louis Arène et Lionel Lingelser. Et derrière eux, il y a l'ensemble des talents de la compagnie du Moonstrom Théâtre. Alors merci donc à Lucas Samin qui est traducteur et co-adaptateur de ce Macbeth, un Macbeth qui se voit doté d'un K au lieu d'un C. Merci également à Erwan Tarlet qui incarne le fou du roi dans cette comédie inquiète et inquiétante, burlesque et tragique. Comme d'habitude, ma petite équipe m'a aidé à préparer et à réaliser cette nouvelle édition de Radio Scénique. Merci donc à Pascal Dutertre, notre chroniqueur. Merci également à Pierre Demkoff qui m'assistait et qui est le programmateur sonore et musical de cette émission. À la technique aujourd'hui, il y avait Enrico Mastrogiovanni et René Clancy, qu'ils s'en soient remerciés. Vous retrouverez cette émission d'ici quelques jours sur le site d'AligreFM, aligrefm.org, rubrique Nos émissions, puis Radio Scénique. On se retrouvera dans 2 semaines sur AligreFM à 10h pour une émission surprise. D'ici là, allez au théâtre, c'est là qu'est la vie. La vie, elle est aussi au cinéma, bien sûr, et c'est Bernard Payen et son Vive le cinéma que nous retrouverons. À 11h, il nous propose aujourd'hui une rediffusion d'une ancienne émission.
I said it.
No.
I do. I hate Shakespeare.
Why?
I just don't get it. How a mediocre actor from a measly little town is suddenly the brightest jewel in England's royal crown. Oh, God, I hate Shakespeare. His plays are wordy, but oh, no, the great Shakespeare. That little turd, he has no sense about the audience. He makes them feel so dumb. The bastard doesn't care that my poor ass is getting numb.
How can you say that? How can you say that?
It's easy, I can say it, 'cause it's absolutely true.
Don't be a penis, the man is a genius.
His genius is he's fooling all of you.
But he's brilliant, what majesty flows from his pen. His poetry soars like a sweet violin. God's own inspiration, like lightning, doth strike him. And he captures my soul.
Ah, jeez, you sound just like him.
Really? Thanks.
You should hate Shakespeare.
Well, I don't. I try to emulate Shakespeare.
Well, there's your problem. You're so blinded by the bard who's such a pompous little man.
Why is it a problem to admit that I'm a fan?
'Cause he's a hack with a knack for stealing anything he can.
How can you say that? How can you say that the man really knows how to write a bitchin' play? You wish you could pen one.
We wish we were in one.
I just wish that he would go away.
Well, that's not gonna happen, because everybody I know says that he is the greatest writer that England has ever known.
And that's another thing I hate about Shakespeare, is all the twits who bloviate about Shakespeare, and how they prattle on about his great accomplishments, well, la-di-da-di-da. And once they start their gushing, there's no stopping on them, then it's blah, 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 Shakespeare. And he walks in his dum-da-dum-ta-da, Shakespeare! He's holding court, and they say, Will, you're such a genius, and your writing is divine.
A rose by any other name is such a clever line.
And they're all, ooh, and he's all stop, and they're all, yay, and I'm all, ah, and I'm really getting sick of it. And oh, I hate Shakespeare!
I think by now we sort of know you hate Shakespeare.
Shakespeare, the way he feigns humility when all he does is gloat. The way he wears that silly frilly collar around his throat. The poster child for why no one should ever procreate. Let me make a shorter list and I will give it to you straight. Every little thing about Shakespeare is what I
hate. He hates, he hates, he clearly, surely, really, truly hates Shakespeare.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.